Vous écoutez France Musique.
Un blanc long se détend, talent de taille, qu'un scène jaloux.
Chut, ça commence.
Oreilles encore nées, vous que j'allais oublier, il paraissait si bien fait pour recevoir nos confidences.
Danse.
Il lance les jours de bonheur, radieux de joie.
Je veux dire que ma première impression sur Léo, c'est un regard.
Jean-Claude Casadesus.
Quand j'ai vu Léo Ferré, quand j'ai pris conscience de son existence, j'ai pensé d'abord à Gustave Moreau. Je ne sais pas pourquoi, à cause des lions qui, en général, sont représentés sur les peintures de Gustave Moreau. Et puis, j'ai pensé à comment est-ce qu'on pourrait dire, des allumés de génie, si vous voulez, comme Paul Tortelier ou comme mon ami le peintre Quinault, qui sont capables de... Je veux dire qu'ils sont des extrémistes de l'affect, si j'ose dire, de l'affectif. Et j'ai eu l'occasion de l'approcher, de le connaître. Et en ce qui me concerne, j'ai ressenti un homme d'une excessive sensibilité, d'un écorché vif total, un appel d'affection, mais qui d'abord rejette les gens dont il souhaite l'affection, souvent, vous savez, comme une espèce de chat qui griffe pour qu'on l'aime. Et alors, musicalement, j'ai été très tôt touché par son besoin absolu d'harmonie musicale qu'on pourrait appeler classique, mais qui sont éternelles, je veux dire, qui font partie du domaine de la musique qu'a pu nous faire découvrir Ravel, par exemple, parce qu'il a eu la chance d'avoir un merveilleux arrangeur musicien qui était Jean-Michel Defaille, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai eu la chance de participer à un grand nombre de ses spectacles, et à l'Alhambra notamment, je crois que c'était en 1961, où il chantait « Thank you Satan », l'affiche rouge. Alors je garde un souvenir de l'affiche rouge tout à fait ému. Vous vous souvenez de cette chanson formidable, je crois que c'est Aragon qui l'a écrite. Pour juste employer un petit terme technique, si vous voulez, il adore les septièmes majeures, il adore les retards, il adore les harmonies qui, tout d'un coup, éveillent une vibration émotive. Alors je crois que, d'une part, on a avec Léo Ferré le plus grand poète anarcho-lyrique ou lyrico-anarchiste qu'on puisse trouver, le premier contestataire avant la lettre, c'est-à-dire que ce mot a été employé en 68, mais je crois que lui, il a été le chantre, le troubadour de la contestation, mais avant tout avec une poésie tout à fait extraordinaire qui n'a peut-être pas toujours été comprise, mais qui crie sans arrêt « Aimez-moi, même si vous avez l'impression que je vous déteste ». Verdi, qui était le plus jeune des vieux compositeurs, à 80 ans, a écrit le chef-d'œuvre des opéras bouffe qui s'appelle Falstaff, dont chaque note souligne totalement l'action. Eh bien, je crois qu'il a pris conscience du mot que représente une note. Et que ces mots à lui, le verbe, s'est fait alliance totale avec le verbe musical. C'est-à-dire qu'une simple harmonie, une simple note, une touche noire, une touche blanche, est une réponse, est une question, est une émotion.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. »
L'affiche rouge Louis Aragon mise en musique par Léo Ferré en 1961 pour la firme Barclay. Un coup de tonnerre dans la chanson. C'est par Ferré que la poésie est descendue dans la rue, dira Aragon quelques années plus tard. Pour l'heure, en 61, Ferré a trouvé son style lyrico-anarchiste, comme le qualifiait le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus dans une interview qui datait de 1987. Et on sentait chez le musicien classique l'admiration sincère, la tendresse aussi pour l'écorché vif qu'était Ferré, avec son besoin viscéral d'harmonie musicale, son goût du 7e majeur, et puis ses rêves d'être chef d'orchestre, la jouissance de brasser le son, n'est-ce pas ? Et Ferré, dans les greniers de la mémoire, une heure durant, va justement nous parler de son rapport à l'écriture avec des extraits de nombreux entretiens réalisés entre 1959 et 1988. Et puis il y aura aussi Ferré sur scène, bien sûr, des documents puisés dans les archives de la radio. 1988, ça commence sur France Culture, une émission de Jean-Louis Calvet et Marc Legras.
Moi, je compose à ma table.
Là, tu écris la musique.
J'écris, oui.
Tu l'entends dans la tête?
Oh, j'écris dans la... C'est une histoire dans la tête. C'est pas possible. On sait bien, on a la mémoire du mélange. Moi, j'entends le hautbois. Si je veux, je pense au hautbois, j'ai la mémoire du hautbois. Puis la flûte et puis le cor. Et si je me... Le cor anglais, c'est le hautbois grave. Bon, ça va. Mais si je veux commencer à mélanger la flûte, le hautbois, la clarinette, j'entends plus le son. C'est pas vrai, quoi. Je dis, bon, ça sera ça. On n'entend pas la musique en soi. Parce que si on entendait la musique en soi, toute la musique en soi, tu sais ce qu'on ferait? Moi, j'écrirais pas. Hein. Tous les jours, je m'écouterais moi-même.
Là, tu parles d'orchestration, je parlais de mélodie. Comment tu écris tes mélodies?
Ah, la mélodie, c'est bien au piano pour moi. Oui, la mélodie, ça vient directement, ou ça ne vient pas, hein, bien sûr.
Moi, je vois bien Ferré, avec son grand score d'orchestre sur sa table, s'entendre la musique à l'intérieur de sa tête et la noter directement. Je ne pense pas que Ferré ait besoin de passer par le piano. C'est en cela que Ferré est plus proche des compositeurs classiques ou dits classiques. Et puis, il y a une chose qui me frappe chez Ferré, moi, c'est l'abondance de son œuvre. C'est un homme extrêmement généreux et prolixe. J'ai l'impression qu'il écrit jour et nuit, et que quand il n'écrit pas, il enregistre. Je ne sais pas ce qu'il en pense, lui, mais c'est vraiment le... Quand on voit la pile d'albums que ça fait, l'intégrale de Ferré, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y a un homme en France qui a autant écrit et enregistré que lui. Je parle d'auteur. Évidemment, Tino Rossi a enregistré énormément de disques, mais il ne les a pas écrits. Ferré, il a tout sorti de sa tête, et ça fait vraiment une masse considérable. Et on ne sait pas ça suffisamment. On n'a pas encore... c'est impossible de publier l'intégrale de Ferré, j'espère, et que ce ne sera pas possible avant longtemps, parce que j'espère qu'il va encore écrire beaucoup, puis... Je crois savoir qu'il y a pas mal d'inédits qui dorment chez lui, et j'aimerais bien jeter un coup d'œil dessus.
Je lui dirai.
Ou un coup d'oreille. Mais c'est ça qui me frappe chez Ferré. On a l'impression qu'il n'a pas le temps, qu'il faut qu'il écrive vite, et que plus le temps passe, plus il écrit.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. ses doigts se dénouent comme le front d'avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante. Près de moi dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps, je chante. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps. Je chante.
Je chante pour passer le temps, un des 10 poèmes d'Aragon que Léo Ferré met en musique en 1961 avec d'autres titres d'anthologie, Tu n'en reviendras pas, Est-ce ainsi que les hommes vivent ou encore L'étrangère. C'est le deuxième disque de Ferré consacré à un poète après Les fleurs du mal en 1957 en hommage à Baudelaire. Il y aura aussi Verlaine ou Apollinaire, des poètes donc toujours aux trajectoires fortes, aux arêtes vives qui inspirent Léo Ferré. Ce rapport si intime à la poésie des autres, c'est de celui-là qu'il sera question ce soir dans nos greniers de la mémoire consacrés à Léo Ferré. C'est ce fil-là tiré des entretiens nombreux que le chanteur a accordé à la radio, un fil qui va nous permettre d'écouter les chansons du premier Ferré, celui des années 50-60. Le voici en compagnie d'Émile Noël, grand producteur de moments d'intimité radiophonique. Nous sommes en janvier 70 et Léo Ferré raconte une histoire de camionneur, amateur de poésie sans le savoir, et cela grâce à la chanson.
Votre rencontre avec les poètes, bon, finalement, il y a eu comme ça quelques poètes que vous avez rencontrés, Baudelaire et Aragon, bon, oui. L'un mort, l'autre vivant. Oui. La poésie vous tente pour la chanson.
Mais ça, c'est une chose que j'ai faite comme ça, parce que ça m'amusait de faire le musicien pour des choses que je n'avais pas écrites. Et ça s'est passé pour Baudelaire, comme ça, un jour, je ne sais pas pourquoi.
Apollinaire, Baudelaire, Aragon, c'est finalement...
Verlaine et Rimbaud,
c'est vrai, il y a un double album, oui.
Oui. Et puis, je vais faire Apollinaire, ces temps-ci. Et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, j'ai fait connaître les poètes à des gens. Vous savez que tous les gens ne savent pas qui est Verlaine, Rimbaud et Baudelaire. Hein. C'est vrai. Et un jour, j'avais mis Ruteboeuf en musique.
Oui.
J'ai dit qu'il a écrit ça au XIIIe siècle, enfin, ces paroles qui auraient pu être écrites. Aujourd'hui.
John Baez vous chante, d'ailleurs.
Oui. Et un jour, j'étais à Neuilly, je faisais mon marché. Il y a longtemps de ça. Et un camionneur qui descend de son camion et qui me tape sur l'épaule et qui me dit, Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf ? Qu'est-ce qu'il avait retenu ? Il avait retenu une bœuf, comme ça. Il ne savait pas. C'est ça qui est important, parce que les gens, la musique, la viole les gens, l'oreille des gens. Et même les gens incultes, les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas été à l'école, ils reçoivent la musique d'abord, et puis après ils écoutent quand même. C'est ça la chance de la chanson. Bon, la poésie ne se lit pas, mais la chanson, la poésie mise en musique s'écoute, voilà.
Et la rencontre, alors avec, bon, la rencontre avec les poètes morts, c'est l'œuvre. La rencontre avec Aragon, c'est l'œuvre et l'homme, quand même.
Oui, alors ça, c'est bizarre, parce que j'étais en 56, je suis rentré à la librairie La Une à Saint-Germain-des-Prés, J'étais au rayon de poésie et j'ai acheté un livre d'Aragon qui s'appelait Le roman inachevé. Aragon, je le connaissais comme ça de loin, quoi. On s'était vu deux fois comme ça, mais en se serrant la main. Quoi. Comme on fait dans ce métier, aussi, on connaît beaucoup de gens, bien effectivement, on connaît personne. Et je suis rentré chez moi, j'étais seul, j'ai ouvert le livre, j'ai mis en musique deux, trois poèmes comme ça. C'est-à-dire que j'ai improvisé. C'est le seul critère pour moi. Parce que si je travaille sur quelque chose, j'ai le sens critique et puis je me dis, bon, pourquoi pas ça? Pourquoi pas cette musique plutôt qu'une autre, quoi. Mais il faut donc que ça vienne tout de suite. C'est ce que j'ai fait avec Aragon. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire des choses avec ça. J'ai téléphoné à Catherine, qui le connaissait bien, qui a téléphoné à Aragon. Aragon, je l'ai vu, et j'ai mis 10 chansons en musique, il était très content, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis je l'ai beaucoup mieux connu, bien sûr.
Pense à tout, à rien. On écrit des vers, de la prose. On doit trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient. Retire aux vitres son haleine. Il en fut ainsi quand Verlaine, ici doucement s'est éteint. Plusieurs vivants. On n'a pas tous les mêmes cartes. Avant l'autre, il faut que je parte. Sorti, je restais rêvant. Cézanne, nous nous contenterons de peu. On pleure et l'on rit comme on peut. Dans cet univers de tisane, qu'est-ce que tu crains? Tu vieilliras, vaille. Disait l'ombre sur la muraille, peinte par un Bruegel forain. Pense à tout, à rien. On écrit des vers de la prose. On doit trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient.
Thank you. sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leurs spectres gelés au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Les poètes que Léo Ferré interprétait lors d'un gala au casino d'Antibes, Jean Lépin, en août 1962 et juste auparavant, Blues, extrait du poème d'Aragon, 14e arrondissement. Ferré a sorti l'année précédente un disque entièrement consacré aux poètes en 1961 et ce disque va passer sur toutes les radios encensées par la presse. Aragon, n'est-ce pas, est cette figure gigantesque dans le paysage intellectuel et politique de l'époque et ce disque rencontre donc un écho autrement plus important que le premier album où Ferré entreprenait de mettre les poètes qu'il aimait en musique comme Charles Baudelaire. D'ailleurs, dans cette archive qui va suivre, on va l'entendre nous raconter sa première rencontre avec Baudelaire.
Je n'aurais jamais touché un poète parce que pour moi, bon, la poésie c'était sacré, il fallait pas... Un jour j'avais eu Piaf quand j'avais fait les Baudelaire, j'avais chanté un ou deux Baudelaire, j'imaginais qu'elle aurait pu chanter quelque chose. Elle m'a dit, elle m'a pas laissé chanter en me disant « Ah !» Pour moi, Baudelaire, c'est sacré. C'était pas un miracle d'intelligence, n'est-ce pas? Bon, bref. Et puis, oui, quand j'étais petit, j'avais 12 ans, j'étais au cinéma un jour, j'avais vu un film qui s'appelait Partir. Et dans ce film, il y avait un chanteur de l'opéra qui s'appelait Charles Panzer, que tu vas connaître, qui fait des disques, et qui chantait l'invitation au voyage de Baudelaire sur la musique de Duparc. C'était fantastique. Et je me souviens, là, j'étais en larmes, j'avais écouté ça. Donc il n'est pas question de mettre de la musique, moi, encore là-dessus, quoi, et de toucher au poète. En 1957, sans le savoir, donc 100 ans, au centenaire de Fleurs du Mal, quoi, ça tombait comme ça, j'avais les Fleurs du Mal sur le piano, et j'ouvre et je vois l'invitation au voyage. Et je me mets à chanter comme ça et puis sans aucun espoir d'ailleurs, je ne voulais pas. Et tout d'un coup, je lis des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Et je vois que Duparc, il n'avait pas mis ça en musique. Alors je me suis dit, eh ben Léo, t'as qu'à sauver les meubles. Et c'est pour ça que j'ai mis tous les poètes en musique. Voilà.
Mon enfant, ma sœur,
songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers la larme. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre, tout y parlerait à l'âme en secret, la douce langue natale. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vous n'aviez plus l'humide gaieté du plus délirant de tous nos tantôt. La 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 la. La petite épouse et la fille aînée était reparu avec la toilette, et c'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette. La, la. Et c'est pour cela que je garde, hélas, avec quelque orgueil, en mon souvenir qui vous cache là l'éclair de côté que coulait
Ferré, seul au piano en février 1966, extrait d'une jam session chanson poésie présentée par Luc Berrimont. C'est une archive de l'INA inédite qui nous permet d'écouter cette belle version d'Invitation au voyage sur un poème de Baudelaire et puis Je vous vois encore de Paul Verlaine. Et Verlaine, il en sera question dans cette émission avant-première d'octobre 1959. Voici le lancement de l'époque dans son jus.
C'est le 20 novembre prochain, au Drap d'Or, que Léo Ferré, qui fait de plus en plus figure de prince des chanteurs-compositeurs, effectuera sa rentrée parisienne. Léo Ferré, bien en avant-première de cette date, est venu nous rendre en passant une visite de poésie.
Léo Ferré, la dernière fois que vous êtes venu à ce micro, vous nous aviez parlé d'une série Verlaine que vous aviez entreprise. Où en êtes-vous ?
Eh bien, je viens de terminer une série de 12 sages Verlaine. Quand je veux dire sage poétiquement. Et je viens vous chanter aujourd'hui la dernière des poésies de Verlaine que j'ai mise en musique.
Mais que se passe-t-il en ce moment ? Vous semblez être en révolte contre les paroliers de notre époque, parce que je vois que vous écrivez des chansons avec Baudelaire, et puis maintenant vous en écrivez avec Verlaine.
Non, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais plus ou moins en révolte. Moi, alors je me suis terré quelque temps, puis j'ai tout de même envie de descendre dans la rue de la chanson en ce moment, parce que, étant donné que nous vivons tout de même, et je crois que personne ne me contredira, et que dans une certaine mesure, nous vivons le Moyen-Âge, j'ai envie de faire la croisade. Je cherche des copains à moi qui feraient avec moi cette croisade contre l'imbécilité de la parole française. Il y a des exceptions, mais elles sont rares, hélas. Et alors, je vais vous chanter aujourd'hui une chanson dont le parolier est mort à la fin du 19e siècle. Et c'est un divin parolier. Et quand ils sont divins, les paroliers, on les appelle poètes maudits.
La musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Puis du plus loin, la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur. Et tous ces tailles de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou, et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où. Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours, que ton verre soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature, et tout le reste est littérature.
L'art poétique, extrait de l'album Verlaine Rimbaud, paru chez Barclay en 1964 avec cet arrangement extrêmement réussi de Jean-Michel Defay. Et maintenant, place de nouveau à l'archive inédite avec l'extrait d'un récital de Léo Ferré au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. En janvier 1961, il sera en compagnie du quintet de Jacques Loussier. Et juste avant ce récital, il venait à la radio sur Paris Inter, un ancêtre de France Inter, et il parlait de ce récital.
Pour vous, le récital est une voie nouvelle, je crois, et surtout au Vieux Colombier, riche de souvenirs.
Oui, vous savez, au Vieux Colombier, comme vous venez de le dire, il traîne des ombres généreuses, enfin. Et pour moi, c'est important. La salle me plaît beaucoup, et puis elle est impressionnante, justement, par tout son passé prestigieux. Et que je chante ce soir des chansons dans ce théâtre, ça ne m'intimide pas, mais ça m'honore.
Ces chansons, d'ailleurs, Léo Ferré, elles sont, dans l'ensemble, toutes nouvelles. Si je vois le programme, je vois que des chansons sont par vous illustrées. Ce sont des illustrations de Ronsard, d'Aragon, de Rimbaud, de Segers, de Verlaine. C'est tout nouveau, je crois, dans votre répertoire, car jusqu'à présent, vous mettiez en musique le poète Léo Ferré.
Vous savez, il y a quelques années que je mets en musique des poètes, parce que pour moi, c'est une autre forme d'expression. C'est-à-dire que je suis là uniquement le musicien. Et lorsque je trouve un poème, ça marche ou ça ne marche pas tout de suite. Je veux dire par là que le mariage est instantané ou il n'est pas, n'est-ce pas? Le mariage des paroles et de la musique. Ce sont de moyens d'expression, pour moi, absolument différents. La poésie est enfermée dans le livre. Et ce qui me fait plaisir, moi je l'ai fait en toute humilité, par exemple pour Ruteboeuf, comme dit Aragon, j'ai essayé d'exhumer de dessous les bitumes de l'ancien langage de merveilleuses poésies qu'en définitive les gens ne connaissent pas parce qu'elles sont dans les livres. Vous savez que les livres de poèmes ne sont réservés, hélas, qu'à une élite qui lit les poètes, n'est-ce pas? Mais je crois qu'avec le véhicule de la musique, ça va beaucoup plus loin. Moi j'espère mettre Aragon dans les jukebox, comme j'ai déjà mis Baudelaire dans les jukebox.
Tu te balances, compagnon, comme une tringle dans le vent, et le maroufle que l'on pend se fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard. Tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le cambion, y'a que du néant sous du néon. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Si je parle d'une balade à faire avec mon vieux hibou, on me demandera jusqu'où je pense aller en promenade. On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur dessous de papier et sans forcément promener. La poésie fout le cambion, y'a que des bêtas sous du béton. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. En 1960 et plus de tes juges, on a les petits, ça tient de famille. À ce que l'on dit, ça se fout une robe et t'es pendu. Tu vois, rien n'a tellement changé, à part le fait que tu n'es plus pour rimer les coups de pied au cul que nous ne savons plus donner. La poésie fout le cambion, y'a que du néant sous du néon. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Emmène-moi dedans ta nuit, qui est pas frangine avec la loi. J'ordonne qu'après mon trépas, ce qui est écrit soit écrit. Il y a des corbeaux qui traînent ici, peut-être qu'ils n'ont plus de pain, et je n'attendrai pas demain pour qu'ils aient un peu de ma vie. La poésie fout le camp, François. Emmène-moi, emmène-moi. Nous irons boire à Montfaucon, à la santé de la chanson. Près des écluses, un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gaie, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de faon. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promission et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joui de notre âme, un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir, madame. L'amour s'achève avec la pluie. n'en reviendra pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts à couper par le travers en deux pour une fois, qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu, les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou, cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regarder sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs. Vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà, la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Selon la guise de ceux qui, pour louer Dieu, humble se courbent au lieu le plus secret de l'église. Mais quand au lit nous serons entrelacés, nous ferons les lascifs selon les guises des amants qui librement pratiquent folâtrement dans les draps sans mignardise. Pourquoi donc, quand je veux mordre tes beaux cheveux, ou baiser ta bouche aimée, ou toucher à ton beau sein, fais-tu la nonne dans un cloître enfermé? Pour qui gardes-tu tes yeux et ton sein délicieux, ta joue et ta bouche belle? En veux-tu baiser Pluton là-bas après que Caron aura mise en sa nacelle? À
après ton dernier trépas. Grêle, tu n'auras là-bas qu'une bouchette blêmie. Et quand mort je te verrai, au sombre je n'avouerai que tu fus jadis mamie. Ton test n'aura plus de peau, et ton visage si beau n'aura veine ni artère. Tu n'auras plus que des dents telles qu'on les voit dedans les têtes des cimetières. Change maîtresse d'avis et ne m'épargne ta bouche. Incontinent, tu mourras, lors tu te repentiras de m'avoir été farouche.
Léo Ferré au Théâtre du Vieux Colombier à Paris, le 27 janvier 1961, la radio avait posé ses micros et l'on écoutait la poésie Foulcan, Villon, L'étrangère et Tu n'en reviendras pas sur les poèmes d'Aragon. Et puis Stance, d'après Ronsard, un petit document d'archives inédites, donc rien que pour vous. C'est la magie de la radio hein, que d'écouter Léo Ferré alors que 20 ans ont déjà passé depuis sa disparition.
Les gens ne savent pas qui je suis et puis n'ont pas le savoir. Je suis un type seul avec mes poumons, mes reins, puis mes jambes, puis ma colonne vertébrale, puis mes mains, puis ma tête, puis ma musique. Et ça ne regarde que moi.
Vous ne parlez pas du cœur.
Ben, le cœur, c'est en même temps que tout, vous savez. J'ai le cœur dans les poumons, moi. C'est pour ça que quand je respire, ça s'entend.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux l'humble glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée. Rêve des chers instants qui la délasseront. Votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête. Et je dors un peu, puisque vous reposez, puisque vous reposez.
Moi, je voudrais me retrouver arbre dans une forêt, un truc, une feuille, une humus, quoi. Et avoir peut-être le sentiment d'être ça, c'est ça, au fond, cette espèce de sinistre anthropomorphisme, n'est-ce pas, qui ne nous quitte pas. Je voudrais être arbre, mais savoir que je suis arbre, et puis regarder les gens passer en disant, tu sais pas que je suis arbre, et moi je suis arbre, et je t'emmerde. Mmh. Voilà. Donc être un homme dans l'arbre, quoi, c'est ça, en définitive.
La lampe d'Aladin.
Oui, et puis je sais pas, je crois que les arbres, s'ils ne pensent pas, ils souffrent en tout cas. Un arbre, ça gueule, quand on le coupe. C'est pour ça que je dis, quand on scie un arbre, j'ai mal à la jambe.
Mon piano, ton piano, son piano, et le père Czerny que j'avais sur le dos, et la demoiselle, oh, son piano, son piano, son piano, son piano. Et l'Aïda de monsieur Verdi, arrangé par un mal appris de piano, pris de piano, pris de piano. Mon piano, ton piano, son piano, et Debussy que j'ai dans la peau, après que Czerny, c'est rigolo, 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 rigolo. Et le boléro de monsieur Ravel réduit à la portion Pleyel, son Pleyel, son Pleyel. Notre piano, votre piano, leur piano. Si vous croyez qu'on joue à l'œil, vous vous mettez le doigt dans notre piano, votre piano, leur piano. En 45, Béla Bartok est mort à New York, mort de faim. Piano, fin de piano, fin de piano.
Mon piano, extrait de l'album Ferré 64 qui refermera nos greniers de la mémoire mixés ce jour par Bruno Martin. Christine Amado réalise comme chaque semaine les greniers de la mémoire avec la collaboration de Françoise Montaille. Très bonne fin de journée à l'écoute de France Musique. À très bientôt.